Décryptage. Clotilde Dumais.
C'est une décision de justice qui fait l'effet d'une bombe dans le paysage politique français. Lundi, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable Marine Le Pen de détournement de fonds publics européens dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, devenu depuis Rassemblement National. La candidate de l'extrême droite française faisait jusqu'à présent la course en tête dans les sondages à un peu plus de 2 ans de la prochaine présidentielle. Elle se dit donc éliminée et dénonce, après ce jugement, une violation de l'état de droit. Alors comment le tribunal a-t-il motivé sa décision ? Est-ce une décision politique, comme l'affirme Marine Le Pen, ou bien une simple décision conforme à la loi ? Quel avenir en juridique électoral désormais pour Marine Le Pen ? On en parle ce soir dans Décryptage. Et pour en discuter, j'accueille en studio Michael Koskaz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Nanterre, auteur notamment de cet article « Faut-il mettre tout dans la Constitution » publié dans la revue Pouvoir. Et puis Olivier Roucan, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Dans un premier temps, je vous propose un petit peu de décortiquer, on va essayer point par point, hein, même si c'est un peu technique, mais pour essayer de bien comprendre ce qui caractérise un petit peu cette condamnation, en reprenant les motivations autant que possible du tribunal, hein, à peu près 150 pages, donc bon, je les ai à peu près feuilletées, on va dire. D'abord, sur la condamnation en tant que telle de Marine Le Pen, c'est peut-être pas le point finalement qui peut faire le plus débat, on va le voir en tout cas avec vous. Pour rappel, donc, le tribunal souligne l'existence tout de même d'un système, hein, un système mis en place pour rémunérer, sous couvert de contrats fictifs d'assistants parlementaires, des personnes qui travaillaient en réalité pour le parti ou pour ses dirigeants. L'existence de ce système ne fait pas de doute, selon le tribunal, qui précise aussi que Marine Le Pen est au cœur de ce système depuis 2009 et qu'elle s'est inscrite avec autorité et détermination dans le fonctionnement instauré par son père, Jean-Marie Le Pen. Elle, Marine Le Pen, elle se défend en disant, hein, notamment que ses assistants parlementaires finalement ne font que de la politique, ne faisaient que de la politique. Sa défense, tout de même, et celle du Rassemblement National, Olivier Roucan, a quand même toujours été un petit peu bancal, ou en tout cas pas forcément très solide, non ?
C'est difficile, là, pour le coup, de défendre cette pratique qui semble avérée du fait des documents qui ont été rendus publics et même des débats qui ont eu lieu lors du procès. Difficile d'argumenter parce qu'il y a déjà eu des affaires d'emploi fictifs dans ce pays qui ont déjà donné lieu à des condamnations. Et je me rappelle très bien, au début des années 2000, alors qu'il y avait eu aussi des mises en cause qui convergeaient vers l'ancien président de la République, Jacques Chirac, le système d'emploi fictif de la mairie de Paris, des règles du jeu étaient tirées et les partis politiques avaient changé leurs pratiques, parfois difficilement et douloureusement. Donc, se dire quand même que bien des années plus tard, deuxième remarque d'ailleurs, dans un cadre européen, alors que depuis très longtemps, le Parlement européen est beaucoup plus strict qu'un certain nombre d'assemblées des États-nations membres sur ces questions, on peut dire que les dirigeants de ce parti ont joué avec le feu, parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas se poser des questions sur leurs pratiques. Et on voit d'ailleurs dans des échanges de courriels, finalement, que certains dirigeants de ce parti se posaient des questions sur la légalité de leurs pratiques. Donc, la défense, dans ces conditions, a été, pendant tout le procès, je dirais, sans mauvais jeu de mots, sur la défensive. Elle a eu du mal.
Si on va un petit peu plus loin maintenant et qu'on analyse un petit peu la peine qui a été prononcée, Michael Koskaz, 4 ans de prison donc dans 2 fermes, aménageables, hein, sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende et surtout cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, donc c'est-à-dire qui prend effet immédiatement. D'abord sur l'inéligibilité, on a beaucoup parlé de la loi Sapin 2, donc la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, loi qui introduit la peine d'inéligibilité en cas de manquement au devoir de probité, et donc notamment dans ces devoirs de probité, eh bien, il y a le détournement, enfin éviter le détournement plutôt de fonds publics. Or, cette loi, elle est entrée en vigueur après les faits, en tout cas d'après le tribunal qui retient des faits qui se sont déroulés jusqu'au 15 février 2016, donc c'est-à-dire un petit peu avant cette loi, avant l'entrée en vigueur de cette loi. Malgré tout, le tribunal a tout de même décidé donc, de retenir l'inéligibilité en se fondant plutôt sur un contexte plus global, hein, en estimant que le législateur avait la volonté de toute façon de lutter pour davantage d'exemplarité des élus. Est-ce que on peut comprendre ce raisonnement, Michael Koskas?
Oui, on peut le comprendre. Hein. On peut le comprendre parce que la peine d'inéligibilité ne date pas de la loi Sapin II. Il était tout à fait possible pour les juges de prononcer des peines d'inéligibilité avant l'entrée en vigueur de cette loi le 11 décembre 2016. Donc effectivement, on peut penser que les
cette
juges...
Cette loi, elle rend cette peine automatique, voilà, alors, hein, c'est ça?
Non, voilà, alors, c'est, ouais, on peut dire, ouais, elle rend pas automatique, mais en tout cas quasi obligatoire. Je m'explique, ça veut dire que les juges sont amenés à motiver lorsqu'ils ne prononcent pas l'inéligibilité pour des faits, bien sûr, qui sont caractérisés, comme là c'est le cas pour l'atteinte à la probité. Alors même qu'avant, ils n'étaient pas obligés de motiver. En fait, c'est cette obligation de motivation.
C'est effectivement le contexte qui explique un petit peu que voilà, on va dire le ton se durcit face à ce genre de fait. On pense évidemment à l'affaire Cahuzac, Olivier Roucan.
Ce qui se passe quand même dans ce pays, je dirais depuis les années 90, c'est une progression constante de règles du jeu plus strictes pour encadrer le financement des partis et le financement des campagnes électorales. Et c'est un progrès, de ce point de vue, de l'État de droit, qui ne s'est pas fait sans rapport de force, sans, entre guillemets, drame politique, déjà, parce qu'à chaque fois, les politiciens concernés réagissent très mal. Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que les juges sont la cible de leur réaction. Donc on traverse ces phases, et jusqu'à présent, à chaque fois, finalement, c'est plutôt la rigueur du cadrage par la loi et les évolutions des pratiques, pour plus de, je dirais, de transparence, entre guillemets, c'est plutôt cette tendance qui a gagné. Là, ce ne sera peut-être pas le cas, parce que quand même, les rapports de force géopolitiques et politiques changent sur cette question. On ne sait pas encore. Je remarquerai juste, et puis je cèderai la parole, que pour l'instant, l'opinion publique semble plutôt encore désireuse d'honnêteté, d'exemplarité du personnel politique et attachée à l'égalité de traitement, qu'on soit politique ou pas, égalité de traitement face à la loi et donc par ceux qui en contrôlent l'application, les juges. Ça, c'est très important. Hein, quand on regarde les dernières enquêtes d'opinion et les réactions à ce qui vient de se passer, eh bien, une majorité, voire parfois très importante, est plutôt en accord avec les décisions de la justice.
Alors, si on va encore un petit peu plus loin dans ces peines qui ont été prononcées, l'inéligibilité, oui, mais avec exécution provisoire, et c'est peut-être le point qui fait le plus débat. Donc, exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle s'applique maintenant, cette inéligibilité. Là, c'est fondé plutôt, Michael Koskas, vous allez peut-être nous éclairer, mais plutôt sur une appréciation hein, des juges qui justifie cette décision à la fois par un risque de récidive et par un risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer?
C'est ça. En fait, cette exécution provisoire, elle vient pallier la lenteur de la justice. C'est-à-dire que voilà, l'idée, c'était de la mise en place donc, de cette réforme hein, de l'article 471 du Code pénal qui instaure cette exécution provisoire. C'est de dire, voilà, si vous êtes condamné, eh ben, toutes les mesures dilatoires que vous allez mettre en œuvre pour ralentir finalement le fonctionnement de la justice, c'est-à-dire que ce soit, ben, je ne sais pas, ça peut être l'appel, ça peut être enfin, faire des QPC, enfin tout ce qu'on peut imaginer, ça n'empêchera pas le fait que vous allez devoir accomplir votre peine en réalité, à laquelle vous n'allez pas être éligible. Et donc c'est tout l'esprit en fait de cette réforme du code de procédure pénale que de permettre cette inéligibilité dès son prononcé. Après ça pose pas mal de questions. Voilà, moi je considère pas que ce soit l'aboutissement parfait. Ça pose des questions parce que quand même, c'est une exception. C'est une exception, par exemple, à la présomption d'innocence et au fait que lorsque on veut faire appel, on est considéré comme innocent. Ça, c'est un grand principe du droit quand même qui trouve une exception avec cette exécution provisoire. Et donc, Donc, je pense qu'on est, on arrive à un stade, hein, si on écoute les déclarations du Premier ministre, dans lesquelles peut-être qu'il serait opportun de revenir sur cette exécution provisoire. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, cette idée de revenir sur l'exécution provisoire me convainc beaucoup plus que l'argumentaire qui consiste à dire que ce serait finalement un coup d'État des juges, qu'on serait dans un gouvernement.
Et le tribunal dit tout de même qu'il prend en considération et qu'il n'est pas aveugle face à la situation politique de Marine Le Pen, qui avait déjà déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2027, ou en tout cas qui n'en faisait pas mystère. Malgré tout, voilà, il a balancé en faveur donc, de cette inéligibilité avec exécution provisoire.
Bien sûr, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, dans tous les cas de détournement de fonds publics, il y a cette mesure d'exécution provisoire. Donc ça, là, ça éloigne un peu l'argument qui consiste à dire que finalement, on aurait infligé un traitement particulier à Marine Le Pen. C'est juste que là, pour le coup, les juges se sont inscrits dans ce qu'on appelle la ligne jurisprudentielle, c'est-à-dire en prononçant cette exécution provisoire dès lors qu'il y a un détournement de fonds publics qui est caractérisé et qui va suffisamment loin, qui est suffisamment grave pour caractériser un manquement à la probité.
D'autant que le tribunal, effectivement, rappelle le risque possible d'une élection de Marine Le Pen qui aurait donc été condamnée et qui pourrait être élue si elle n'était pas inéligible.
Oui, alors là-dessus, on a de longues motivations, effectivement, qui montrent que les juges sont effectivement très conscients de ce qu'ils font, tout à fait.
Et en plus,
Olivier Roucan,
ils indiquent quand même dans cette jurisprudence qui s'inscrit dans la droite ligne de ce qui avait été déjà, de ce qu'on connaissait, ils démontrent également leur souci du principe de proportionnalité, parce que Louis Alliot, qui est également condamné, lui ne se voit pas appliquer l'exécution provisoire, notamment en se fondant sur la modicité des sommes concernées à proportion de celle qui concerne Marine Le Pen, qui était donc à la tête du système, d'après les investigations menées. Donc, ce n'est pas de ce point de vue du tout, ce ne sont pas des considérations politiques qui expliquent cette décision, ce sont des considérations juridiques assez fines et qui ne sont pas nouvelles. C'est là où les acteurs politiques qui se disent à chaque fois surpris ferait bien d'avoir des conseillers qui suivent la jurisprudence, vous voyez.
Alors, en tout cas, c'est vrai que cette inéligibilité avec exécution provisoire, on l'a dit, hein, elle fait débat, et notamment au sein des parlementaires, avec notamment l'allié de Marine Le Pen, Éric Ciotti, qui veut déposer une proposition de loi pour revenir sur cette mesure. Et c'est d'ailleurs ce que rappelait aussi le député de l'Oise, Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national, qui était ce midi sur RFI.
Mais cela dit, il y a d'autres groupes politiques qui voudraient abroger cette exécution provisoire. Alors on dit toujours, oui, LFI voudrait l'abroger. Mais vous avez le MoDem, vous avez les Républicains, donc on n'est pas tout seul. Et tout ça d'ailleurs, entre parenthèses, si tout le monde vote, ça fait une majorité. Hein.
Voilà, on a l'impression que d'un coup, effectivement, vous le disiez, les élus se rendent compte de ce qu'ils ont eux-mêmes voté quand même à un moment donné. Est-ce qu'on peut craindre un retour en arrière sur cette lutte pour davantage de probité des élus ? Michael Koskas, Olivier Roucan ?
Moi, je dirais juste qu'effectivement, un retour en arrière, je sais pas. Enfin, en tout cas, comment dire ? Je pense que cette exécution provisoire, peut-être qu'on est effectivement allé peut-être un peu trop loin dans l'idée de cette automaticité, voilà, avec les nuances que j'ai précisées tout à l'heure, mais du prononcé de l'exécution provisoire, et qu'effectivement, peut-être qu'on peut se demander si cette exception à la présomption d'innocence est opportune. Moi, je trouve ça sain d'avoir un débat politique là-dessus, même si c'est quelque chose que les députés ont voté il y a maintenant près de 10 ans. C'est peut-être pas plus mal de se poser des questions, en tout cas. En tout cas, c'est bien, je trouve, que ce débat arrive au Parlement.
C'est toujours pas fini, en tout cas pour Marine Le Pen, c'est pas complètement terminé, puisque donc la Cour d'appel a précisé qu'elle allait rendre, elle, sa décision à l'été 2026, qui ferait qu'il restera à peu près un an de campagne électorale possible pour une présidentielle. Avant d'en venir peut-être sur l'avenir politique de Marine Le Pen, sur l'avenir juridique, qu'est-ce qu'il est possible de faire, Michael Koskas, donc ce recours à la Cour d'appel? Elle évoque aussi l'éventuel dépôt d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Enfin voilà, quels sont un petit peu encore ces chemins possibles pour tenter de survivre, on va dire, entre
guillemets. Oui, alors elle a plusieurs voies de recours, Marine Le Pen. C'est vrai, la première, c'est effectivement de recourir, enfin de faire appel, hein, d'interjeter appel devant devant la cour d'appel, effectivement. Et puis moi, je dirais que c'est vraiment tout à son honneur, enfin tout à l'honneur de la cour d'appel que d'avoir dit qu'elle allait juger l'affaire en un peu plus d'un
certains an. Disent qu'il y aurait peut-être une justice à deux vitesses, que la cour d'appel va plus vite dans ce cas-là que dans
peut-être,
d'autres.
Peut-être, mais ça veut aussi dire qu'elle est consciente des enjeux. Elle est consciente des enjeux. Et puis aussi, je trouve que là où la cour d'appel est maligne, c'est qu'elle montre que finalement... qu'elle n'est pas du tout contrainte par un agenda judiciaire qui serait dicté par, je sais pas moi, un cabinet noir ou quoi que ce soit. En fait, elle montre que si jamais Marine Le Pen veut faire appel, qu'elle le fasse. Et je pense que Marine Le Pen, là-dessus, risque quand même pas mal de choses à faire appel, puisqu'en général, on sait que l'appel confirme très majoritairement la décision qui était rendue en première instance. Donc, juste, il y a l'appel, il y a aussi la possibilité de faire une QPC, puisque le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur la constitutionnalité de l'article 471, alinéa 4 du Code de procédure pénale. Et on peut imaginer aussi des hypothèses peut-être un peu moins réalistes, mais comme la grâce présidentielle. Voilà, je pense que ce sont les deux voies principales, quoi.
Olivier Roucan, sur l'avenir peut-être politique de Marine Le Pen, alors évidemment en fonction aussi de ce que le Conseil d'État, de ce que la Cour d'appel dira, de son côté aussi, peut-être que l'inéligibilité finalement sera confirmée, on ne sait pas, mais si jamais c'est en faveur de Marine Le Pen, est-ce qu'elle a encore une chance politique de participer à cette présidentielle en 2027?
Je vais vous répondre en reprenant un peu le fil de ce qui se dit tout à l'heure. Là, la stratégie, elle est celle d'une polarisation, c'est-à-dire on sort quand même du discours convenu d'institutionnalisation, on fait des grandes déclarations sur le fait que la démocratie est attaquée par les juges, que donc la démocratie libérale n'est pas démocratique. On reprend des éléments de langage à Poutine et à Trump. C'est une sacrée polarisation du débat. Et là où l'on voit que Marine Le Pen reste un personnage central du jeu, c'est qu'elle entraîne y compris des acteurs politiques de la droite classique, jusqu'au Premier ministre sur la question, vous le disiez, de l'exécution provisoire. Et c'est moi ce qui me rend un peu moins positif sur cette éventuelle évolution législative, c'est que finalement, même dans la situation judiciaire où elle est, Marine Le Pen parvient par sa réaction à faire douter jusqu'au Premier ministre de textes
Il s'est dit troublé,
il est revenu, il accepterait l'idée qu'il y ait de pousser une proposition de loi qui revienne sur l'obligation, l'exécution provisoire. Alors que, rappelons-nous, lorsqu'il est nommé ministre au début de l'ère Macron, ministre de la Justice, il fait passer un texte en 2019 de moralisation de la vie publique. C'est le même homme. Donc, Marine Le Pen, elle garde une grande force et elle ne va pas disparaître du jeu, y compris au Rassemblement national. Elle est fragilisée.
On évoque l'idée, effectivement, l'hypothèse d'un Jordan Bardella qui pourrait la remplacer.
Certes, mais elle est fragilisée, mais elle va rester là. Et elle vient en quelques heures et jours, elle vient de le signaler à tout le monde, y compris à Jordan Bardella, qui doit bien faire avec encore pendant les mois et les années qui viennent. Donc, si vous voulez, elle se préserve une chance de pouvoir continuer à candidater la fois prochaine. Et si elle ne le peut pas, elle fera valoir ses intérêts. Et d'autres cas de personnalités inéligibles par le passé, on continue à peser dans le jeu, et parfois d'ailleurs pour faire perdre d'autres.
Par exemple.
De leur camp. Enfin, ou pour contribuer à.
On peut penser à Alain Juppé, notamment,
par exemple,
c'est ça, dans l'histoire relativement récente. Pas la fin de Marine Le Pen, et peut-être même qu'elle sera renforcée, si encore une fois, la justice va dans ce sens.
Juste sur le plan électoral, il est difficile de dire aujourd'hui, d'abord, jusqu'où ira cette stratégie, je dirais, de trumpisation du RN, et quel effet ça aura sur l'électorat. Pourquoi il est difficile de le dire? Parce que, comme une partie du personnel politique suit déjà, c'est déjà moins de la polarisation, ça s'institutionnalise indirectement. Et deuxième remarque, l'électorat, ce qu'elle peut perdre auprès d'un électorat conventionnel qu'elle commence à gagner, elle peut le gagner en galvanisant ses fans, on va dire.
Merci beaucoup Olivier Roucan, politologue, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Merci d'avoir été avec nous et merci à Michael Koskas, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre. J'en profite pour remercier Fabrice Viollet qui était à la réalisation, Sigrid Azeroual à la cellule invitée et puis au service documentation de RFI.